à Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, au sommaire ce soir. Insécurité en RDC, 4 membres d'équipe anti-Ebola ont été tués dans l'Est. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou s'est entretenu à Niamey avec des chefs touaregs de la région de Kidal du nord du Mali. Au moins 22 manifestants ont été tués à Nasiriya en Irak. Dans la seconde partie de cette édition, nous reviendrons sur la fête de Thanksgiving célébrée aujourd'hui aux États-Unis et nous aurons un avant-goût du Black Friday. Sans oublier, bien sûr, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, 4 membres d'équipe anti-Ebola ont été tués, 5 autres blessés dans 2 attaques armées la nuit dernière dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce que rapporte l'Organisation mondiale de la santé. Plus de détails avec Nathalie Barge.
Un agent du ministère congolais de la Santé et 2 chauffeurs ont été tués dans l'assaut contre une base où vivent des personnels de la riposte anti-Ebola à Biakato, dans la province de l'Ituri. L'agent travaillait pour l'équipe de vaccination, a précisé l'OMS. Un policier congolais qui gardait les installations a été tué dans une autre attaque contre un bureau de coordination de la riposte anti-Ebola à Mangina, dans la province du Nord Kivu. Nos bases de Biakato et de Mangina ont été attaquées presque simultanément vers minuit, a indiqué le chef congolais de la riposte anti-Ebola, Jean-Jacques Muyembe. L'OMS et ses partenaires soignent les blessés et mettent d'autres membres du personnel en sécurité. Les autorités congolaises attribuent ces attaques aux miliciens Maïmaï. Mangina est le lieu d'où est partie en juillet 2018 la 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais.
Le président nigérien s'est entretenu à Niamey avec des chefs touaregs de Kigal, une région du nord malien. Mahamadou Issoufou les avait récemment accusés d'être une menace pour la stabilité du Sahel. Nous faisons le point avec Yakuba Ouedraogo.
Invité par le président nigérien, la délégation de la coordination des mouvements de l'Azawad et Mahamadou Issoufou ont parlé de la récente déclaration de ce dernier sur le statut de Kidal. D'après le site Actu Niger, qui cite un responsable Touareg, la rencontre a permis de mettre fin à cet incident. En septembre à Bamako, Mahamadou Issoufou s'était plaint que des groupes armés maliens signataires de l'accord d'Alger de 2015 aient une position ambiguë vis-à-vis des djihadistes. Toujours mi-septembre, le Nigérien Maman Sidikou, secrétaire permanent du G5 Sahel, avait affirmé que Kidal est une base arrière de lancement d'opérations terroristes. La CMA a toujours réfuté ces accusations. Kidal est sous le contrôle d'anciens rebelles séparatistes Touareg, malgré la présence de bases françaises et des forces onusiennes. Des photos diffusées sur les réseaux sociaux montrent le président nigérien et des responsables Touareg, dont Mohamed Ag Intala, secrétaire du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad et un chef militaire de cette organisation. Le HCUIA se définit comme un mouvement politico-militaire multicommunautaire.
À l'occasion de la fête nationale mauritanienne, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a promis des budgets supplémentaires pour lutter contre la pauvreté et une aide juridique gratuite pour les plus démunis. Les célébrations de la fête de l'indépendance, qui se déroule chaque année dans une ville différente, ont eu lieu ce matin à Agjoujout, la ville natale de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, qui n'était toutefois pas présent. Son absence a été très remarqué sur fond de dissensions apparentes entre les deux hommes, pourtant considérés comme proches pendant des décennies. La première promotion de l'UVCI, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, soit 830 étudiants, a été diplômée aujourd'hui. Les étudiants ont reçu une licence dans les filières du numérique délivrée par cet établissement créé en 2015 pour désengorger le système universitaire. L'UVCI dispense des cours grâce à Internet. Les étudiants reçoivent des modules interactifs sur leur téléphone ou ordinateur et ne se rendent physiquement à l'université que les jours des contrôles. Hilal Elver, la rapporteure spéciale de l'ONU sur le droit à l'alimentation, a affirmé que le Zimbabwe était sur le point de subir une famine créée par l'homme. 60% de la population est en proie à l'insécurité alimentaire. Hilal Elver a classé le Zimbabwe parmi les 4 pays dans le monde où la pénurie alimentaire est la plus forte, si on exclut ceux touchés par la guerre. En Namibie, les anciens ministres de la Justice et de la Pêche ont comparu devant un tribunal de Windhoek. Ils sont accusés de corruption et de blanchiment d'argent pour un montant évalué à 10 millions de dollars. 4 autres suspects, dont un banquier, comparaissent à leur côté. Les 2 ministres ont démissionné le 13 novembre après avoir été mentionnés dans des documents révélés par le site Wikileaks. La police sud-africaine a annoncé avoir saisi 100 cornes de rhinocéros et 4 carcasses de tigres dans le cadre d'une opération anti-braconnage. 3 personnes ont été arrêtées dans 2 fermes du nord-ouest du pays. L'Afrique du Sud, qui abrite environ 80% de la population mondiale de rhinocéros, est particulièrement touchée par le braconnage.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, Pékin a réagi avec colère à la promulgation par le président américain Donald Trump d'une loi soutenant les manifestations pro-démocratie à Hong Kong. La Chine qualifie cette décision d'abomination absolue, ce sont leurs termes, et menace Washington de représailles. Plus de détails avec Abdourahman Dia.
Pour la deuxième fois en l'espace de 4 jours, l'ambassadeur des États-Unis à Pékin, Terry Branstad, a été convoqué au ministère chinois des Affaires étrangères, qui a appelé Washington à ne pas mettre en œuvre le texte incriminé. Selon Pékin, la résolution approuvée la semaine dernière par le Congrès et promulguée hier par Donald Trump dissimule de sinistres intentions évoquant des représailles sans préciser lesquelles. Après pratiquement 6 mois d'agitation dans l'ex-colonie britannique, la Chine accuse le texte, je cite, de soutenir effrontément les actes commis contre d'innocents citoyens qui ont été frappés, blessés et brûlés par des criminels violents. Un porte-parole de l'ambassade des États-Unis a déclaré que le Parti communiste au pouvoir en Chine devait tenir sa promesse envers le peuple de Hong Kong qui ne demande que la liberté. Le Congrès américain a également approuvé une mesure interdisant la vente à la police hongkongaise de matériel destiné à réprimer les manifestations, une résolution également promulguée par Donald Trump. La question est de savoir si cette décision va mettre en péril les tractations menées par Washington et Pékin pour sceller un accord et mettre fin à leur guerre commerciale.
Le sud de l'Irak était à feu et à sang aujourd'hui. 28 manifestants y ont été tués par les forces de l'ordre. Les protestataires attaquaient des bâtiments officiels dans le consulat d'Iran, dans la ville sainte chiite de Najaf. Pour tenter de contenir la spirale de violence, les autorités ont limogé un général initialement dépêché pour rétablir l'ordre dans le sud. Mais les manifestants ne se replient pas. Eric Manirakiza.
À Nasiriyah, foyer historique de révolte en Irak, les manifestants ont d'abord incendié un quijé de la police, puis encerclé le commandement militaire de la province où se trouvent les ruines de la ville antique d'Ur. Ils ont formé par milliers un cortège funéraire aux martyrs dans le centre-ville, défiant un couvre-feu imposé plus tôt. Là, les protestataires ont crié qu'ils resteraient jusqu'à la chute du régime. Des dizaines de combattants tribaux, en armes, se sont déployés sur l'autoroute venant de Bagdad, déterminés à empêcher l'arrivée d'un renfort de la capitale. Plus au nord, la ville sainte chiite de Najaf, visitée chaque année par des millions de pèlerins iraniens, est secouée par la colère Téhéran. Des centaines de manifestants ont brûlé, puis investi le consulat iranien mercredi soir. Les violences ont aussi touché Kerbala, l'autre ville sainte chiite, où manifestants et forces de l'ordre s'affrontent. Bassora, l'immense cité pétrolière à la pointe sud du pays, participe au mouvement. Ses grands axes routiers sont coupés par des manifestants qui tentent de toucher le gouvernement à son talon d'Achille, l'heure noire. Depuis le 1er octobre, ce mouvement de contestation inédit a déjà fait plus de 380 morts et plus de 15 000 blessés.
À quelques jours du sommet de l'OTAN à Londres, le président français Emmanuel Macron a assumé ses propos controversés. Dans un entretien à l'hebdomadaire britannique The Economist, le 7 novembre, il avait déclaré « Ce qu'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN ». À l'issue d'un entretien d'une heure avec Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, le président français s'est félicité d'avoir réveillé l'OTAN. À 2 semaines des législatives au Royaume-Uni, les conservateurs du Premier ministre Boris Johnson sont crédités d'une large majorité dans les sondages, mais les partis disent se préparer à un résultat bien plus serré. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Nanit Talani.
La Guinée équatoriale a lancé pour la première fois et avec succès un appel d'offres pour les minerais et métaux précieux de son sous-sol. Plus de 20 compagnies ont montré leur intérêt et 5 d'entre elles ont reçu 18 blocs. En 2020, ces sociétés commenceront quelques forages pour recueillir des échantillons et dès 2021, quand ces recherches seront concluantes, elles débuteront l'exploitation. Le gouvernement équato-guinéen assure que l'exploration et l'exploitation minière est un secteur encore vierge dans le pays. Les minerais n'ont encore jamais été exploités de manière industrielle. Le gouvernement tchadien appelle les ministres et responsables des transports aériens à revoir à la baisse les taxes d'atterrissage d'avions et celles sur les billets d'avion pour rendre accessible le transport aérien aux Tchadiens. Le taux en vigueur n'est pas de nature à faire de l'avion le premier choix des Tchadiens comme moyen de transport, déplore le président Idriss Déby Itno. Ces taxes datent de 3 ans et ne permettent pas aux Tchadiens d'avoir accès à l'avion. La réduction des taxes amènera les compagnies à réduire les prix des billets. Pour terminer, la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, cherche des fonds pour exécuter 4 projets qu'elle considère comme prioritaires et qui incluent la poursuite de la construction de l'Université inter-État Cameroun-Congo, déjà opérationnelle.
Maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Début ce week-end de la phase de groupe en Coupe africaine.
Oui, ce sera la première journée en phase de poule de la Coupe CAF. Al-Nassr de la Libye reçoit le Djoliba Athletic Club de Bamako ce dimanche. Un match délocalisé au Caire en Égypte donc. Pour le coach du Djoliba AC, tout est fin prêt pour affronter le club libyen.
Nous allons nous concentrer sur le gazon vert et de pouvoir nous battre pour faire honneur à toute la nation du Mali. Et je sais que ces jeunes gens, ils sont prêts. Dans n'importe quelle adversité, ces jeunes gens vont répondre présents. Nous ne vendons pas la peau de l'ours avant d'y aller, mais sachez que nous irons en conquérant, nous irons en grand guerrier pour défendre les couleurs du Djoliba. Je veux gagner les matchs et le reste, on verra à la fin. La jeunesse de mon équipe est un atout.
Georges Kouadio, coach du Djoliba AC, au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
La Gambie en demi-finale du tournoi UFOA A.
Oui, la Gambie est assurée de disputer les demi-finales de ce tournoi des moins de 20 ans. Après sa victoire 1-0 sur le Libéria hier lors de la deuxième journée du groupe B, dans un match fermé, l'unique but du match est intervenu en deuxième période avec une réalisation de Momoudou Bodjang avec 4 points en 2 matchs dans un groupe à 3 membres. Les Scorpions, tenants du titre, sont certains d'occuper l'une des 2 premières places. Prochaine sortie dans ce groupe B, samedi, entre le Libéria et le Mali.
Eric Bailly a repris l'entraînement.
Absent depuis le 25 juillet, suite à une blessure contractée avec son club Manchester United, lors du match contre Tottenham, le défenseur central ivoirien souffrait d'une blessure au genou. Eric Bailly a finalement retrouvé le camp d'entraînement des Red Devils après une préparation individuelle. Déjà absent de longues semaines en fin de saison dernière et privé de la CAN en Égypte, le champion d'Afrique 2015 est annoncé pour le 26 décembre prochain, soit le début des hostilités du Boxing Day en Premier League.
5e journée de l'Europa League ce soir.
Oui, Séville et Manchester United, déjà qualifiés, un autre grand nom, Arsenal, cherche à atteindre les 16e de finale. Les Gunners, en tête du groupe F avec 10 points, n'ont besoin que d'un match nul contre Francfort pour voir la phase finale. Le duel du groupe D entre le Sporting Lisbonne et le PSV Eindhoven peut permettre aux Portugais d'accrocher leur qualification. Dans le groupe J, l'AS Rome serait éliminé en cas de défaite à Istanbul contre Başakşehir. à condition que Mönchengladbach s'impose dans le même temps chez les Autrichiens de Wolfsburg. Autres candidats aux phases finales à pouvoir sceller leur qualification, les Young Boys de Berne, l'APOEL Nicosie, Copenhague, le Dynamo Kiev ou encore Braga et Wolverhampton qui s'affrontent dans le groupe K.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, s'est entretenu à Niamey avec des chefs Touareg de la région de Kidal dans le nord du Mali, qu'il avait récemment accusé d'être une menace pour la stabilité du Sahel. Pour le journaliste Moussa Aksar, spécialiste des questions de sécurité, Issoufou s'est rendu compte qu'il avait commis une bourde avec sa sortie sur Kidal. Moussa Aksar a été joint par Bagassi Koura.
Le président Issoufou a eu à faire une bourde, si on peut l'appeler ainsi, quand il a accusé certaines personnalités de Kidal d'être derrière les attaques perpétrées le long de la frontière nigérienne. Donc il y a eu un tollé au sein de la communauté Touareg du Niger et du Mali, et c'est pour cela que le président Issoufou s'est ravisé et il a reçu ces personnalités-là, et Touareg, ces personnalités maliennes Touareg au Niger.
Est-ce qu'on a une idée de ce qu'ils se sont dit?
Selon nos informations, c'est juste pour... Il y a eu des émissaires au départ. Il y a eu des émissaires qui ont rencontré ces personnalités de Touareg maliennes pour les amener à la raison. Et c'est ensuite que le président Issoufou les a reçus pour une réconciliation. Et vous avez suivi des informations de la présidence où il est dit que l'incident est clos.
Qu'est-ce qui en réalité sous-tend une telle initiative de la part du président nigérien?
Oui, après cette bourde, le président Issoufou a compris qu'il ne peut pas se battre sur plusieurs fronts. Là, il a ouvert un front avec les notables de Kidal en faisant cette déclaration-là. C'est pour cela qu'il s'est ravisé pour faire la paix avec ces notables de Kidal et se concentrer ses efforts sur les terroristes qui sont en train d'engranger des résultats le long de la frontière entre le Burkina, le Mali et le Niger.
Est-ce qu'il faut voir aussi dans le mécontentement Touareg ces attaques qui ont eu lieu récemment à la frontière entre le Niger et le Mali?
Oui, c'est pour un peu atténuer cette situation le long de la frontière entre le Niger et le Mali que le président Issoufou a reçu ses leaders Touareg. Et donc, ces attaques qui sont perpétrées ne sont pas du fait de ces anciens rebelles Touareg. Donc, ce sont des terroristes qui ont perpétré ces attaques-là au niveau de la frontière nigéro-malienne.
Est-ce à dire qu'il n'y aura plus de pression de Niamey sur la question de Kidal?
Oui, il y aura des pressions souterraines. Il y a eu toujours des pressions souterraines pour demander à ce que vraiment Kidal soit sécurisé. Mais avec cette rencontre, on pense que, comme l'a dit le président Issoufou, l'incident est clos. Et nous souhaiterons que cet incident soit clos pour qu'il n'y ait plus des attaques le long de cette frontière.
Le journaliste Moussa Aksar, spécialiste des questions de sécurité, il était joint à Niamey.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, les forces onusiennes et étrangères sous le feu des critiques dans leur pays d'accueil. Des manifestations ont éclaté à Beni, dans l'est de la RDC, contre la MONUSCO, avant de se propager dans d'autres localités comme Goma et Butembo. Il est reproché aux casques bleus leur inaction face aux attaques des groupes armés. Au Mali également, la présence de la mission de l'ONU et des forces françaises est fortement critiquée. Qu'est-ce qui explique ce sentiment envers les troupes étrangères? Comment rendre leur mission plus efficace et mieux protéger les civils? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Une question sociale à présent, la problématique de la dot, tradition très répandue sur le continent africain. Les critiques estiment que c'est une pratique qui dégrade les femmes en les rabaissant à de simples valeurs marchandes. Par exemple, au Nigeria, les sommes demandées sont tellement élevées qu'une affaire récente s'est soldée par un suicide. Mais les partisans de cette pratique la considèrent comme un symbole culturel et religieux. Un reportage de Chika Oudoua à Yola, le récit est de Michel Joseph.
Sadatou Ahmed Manga colore ses pieds et ses mains avec du henné. Elle doit se marier bientôt. C'est la coutume dans le nord du Nigeria, majoritairement musulman. Ici, la tradition en matière de mariage, c'est d'abord la dot, la somme que le fiancé verse à la famille de la future mariée.
Dans l'islam, la dot doit être payée avant le mariage. Elle existe depuis l'époque du prophète Mahomet, paix soit sur lui, et nous continuons la pratique.
De plus en plus de Nigérians condamnent cette pratique jugée dégradante envers les femmes, faisant d'elles de simples objets à vendre. Les femmes s'apprêtant à se marier ne participent même pas à la détermination du montant de la dot, négociée entre les parents masculins du futur couple. En octobre, une jeune fille âgée de 17 ans s'est immolée parce que son petit ami ne pouvait trouver la dot fixée à moins de $50. Fiabina Penyoel est une marraine.
Tout au début, cette question de la dot était comme une plaisanterie entre le futur mari et sa belle famille. Dans la plupart des cultures, c'était une petite chose dont le monde pouvait s'acquitter. Avec le temps, c'est devenu si coûteux que la plupart des gens ne peuvent pas se le permettre. C'est un sujet de préoccupation. C'est donc comme si on utilisait la dot pour classer les gens par rang social.
Agatha Okata, spécialiste de la littérature africaine à l'Université américaine du Nigeria, attribue la critique de la dot à l'idéologie féministe radicale.
Le monde occidental subit un choc culturel, car ce n'est pas dans sa culture. Il se penche sur la dot et se demande « Pourquoi devez-vous acheter une femme ?» Le concept de dot en soi n'achète pas quelqu'un, c'est juste un symbole d'amour.
Payer la dot est différent d'apporter une dot, qui est un bien ou une richesse transférée de la famille de la mariée à l'époux ou à sa famille. Pour la majorité des Nigérians, payer la dot, c'est souligner la valeur d'une femme, dit Yola.
Je pense que c'est juste. Je pense que c'est la seule façon d'amener une femme à apprécier l'amour que tu as, de montrer à quel point tu l'aimes.
Et pour la plupart des familles nigérianes, toutes religions confondues, le mariage n'est valable et célébré que lorsque la dot a été payée. Comme quoi, les traditions ont la peau dure.
Les Américains célèbrent aujourd'hui la Thanksgiving. Cette fête, fixée au quatrième jeudi de novembre, se passe généralement en famille et la plupart des entreprises et des administrations sont fermées. Ici à Washington, cela fait 25 ans qu'une famille africaine a décidé de donner un peu d'elle-même aux autres, une manière d'exprimer sa reconnaissance et sa gratitude en ce jour spécial de l'année. Reportage Arzuma Compaoré.
Pour beaucoup d'Américains, la fête de Thanksgiving, c'est avant tout la grosse dinde, la famille et les amis. C'est aussi un temps de gratitude pour les bénédictions reçues tout au long de l'année. Eddie est une habitante du quartier.
Je suis ici pour célébrer Thanksgiving avec le quartier, dire merci pour la famille et juste le fait d'être en vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y participeront pas cette année.
Pour les Hirono, au-delà d'être un moment de réflexion, c'est également une opportunité de servir les moins fortunés. Emmanuel Hirono, président de la Fondation TIS et de Motir Service.
Il y a ceux qui ont faim, ceux qui sont moins chanceux et vivent dans le chaos. Les problèmes de santé mentale sont frustrés ou veulent se tuer, mais nous les réunissons, nous nous asseyons et partageons un repas avec eux en leur montrant de la dignité et du respect. Poser des actes d'amour et de compassion et donner un peu de vous-même, cela fait toute la différence.
Depuis 5h du matin, l'armée de volontaires, mise sur pied par Emmanuel Hirono et son épouse Jay, à travers leur fondation, ne ménage aucune énergie pour s'assurer que tout le monde ait un repas de Thanksgiving. Comme chaque année depuis 25 ans, la Fondation TIS offre gratuitement des dindes et le nécessaire pour concocter un délicieux repas de famille. Cette année, 800 dindes au total sont offertes en cadeau à la communauté. Joanne est une habitante du quartier.
Je cuisine pour ma famille chaque année. Je vais donc rentrer à la maison pour cuisiner tout ça pour ma mère, mes cousins, mes nièces, mes petits-enfants, ma fille, mon fils, en fait toute la famille.
Nous ne venons pas simplement donner de la dinde, nous voulons apporter de la compassion, de la famille et de l'éthique. Asseyons-nous, mangeons et communions ensemble. Nous voulons vous connaître afin que vous puissiez nous connaître. Je ne considère pas l'argent comme étant la solution à tout, mais plutôt quel impact social nous avons dans la vie des gens, de sorte à transformer leur vie.
Shelia Bryant est une volontaire, elle est également politicienne.
Il fait des choses absolument nécessaires pour la communauté. Pour certaines personnes qui tombent entre les mailles du filet, il est comme une soupape de sécurité. Il offre des formations professionnelles. Regardez cette ligne avec des personnes qui reçoivent gratuitement de la nourriture, de la dinde et un dîner de Thanksgiving. C'est un homme extraordinaire et cela lui vient du cœur. Il est sincère dans tout ce qu'il fait pour la communauté.
Pour l'homme d'affaires natif du Nigeria, ce moment de partage est doublement précieux. Car si aujourd'hui il a du succès, c'est en partie grâce à cette communauté.
Il y a un grand fossé entre l'Afrique et les Afro-Américains. Et le don de Dieu est de savoir que nous sommes tous Africains, peu importe d'où nous venons, il est important que nous nous impliquions à un niveau personnel sans tenir compte du gouvernement.
Il aura fallu près de 3 mois pour faire de ce don annuel de dinde un succès. Et ici, tout le monde est volontaire, y compris les employés de Moutir Service, dont Emmanuel est le PDG.
Parce que nous avons beaucoup d'employés, nous leur enseignons la compassion. Et à cause de la compassion, ils s'impliquent. Ensuite, nous servons. C'est pourquoi je travaille aujourd'hui. Je suis chauffeur, nettoyeur, cuisinier, je fais tout. Et cela me plaît.
Et s'il y a bien une personne envers qui Emmanuel est reconnaissant, c'est son épouse.
Ma femme aime servir les gens. Je suis un entrepreneur social à cause d'elle et elle m'a appris un autre aspect de la vie que je ne connaissais pas. Et je lui en suis très reconnaissant.
Si la Fondation TIS est le bras qui donne, Moutir Service est celui qui travaille et un pourcentage de ses bénéfices nets annuels est remis à des causes affectant les populations défavorisées et marginalisées. Les deux structures combinent leurs efforts pour faire la différence dans des communautés très pauvres aux États-Unis et en Afrique de l'Ouest.
L'honneur au musée Smithsonian des Arts Africains de Washington. Une exposition y présente certains héros du continent. Le reportage de Grace Oyenoubi, le récit est de Lionel Gaïma.
Leur histoire est intimement liée aux luttes de libération et d'indépendance. Elle illustre les principes héroïques de la Grande Afrique à travers l'art et l'histoire du continent. Parmi ces héros, Nelson Mandela, Kwame Nkrumah et la chanteuse africaine de renom Myriam Makeba. La technologie de pointe joue un grand rôle dans l'exposition en cours au Musée des Arts Africains de Washington. Garth Kesley Hayford dirige ce musée.
Ce que nous permet cette nouvelle technologie, c'est que les gens puissent venir dans notre espace et voir, s'ils le désirent, des objets exceptionnels, magnifiquement organisés. Mais si vous le désirez, vous pouvez aussi lire les étiquettes pour des informations supplémentaires.
Selon Casey Hayford, Kevin Dumouchel, qui a sélectionné les œuvres, et une équipe du musée ont créé un cadre digital pour renforcer l'expérience des visiteurs avec l'histoire des œuvres d'art et leur signification.
Ainsi, ce que vous verrez et ce que nous faisons grâce à cette technologie de pointe, c'est la connexion entre chaque idée et chaque objet avec un personnage précis de l'histoire africaine dont la vie illustre cette idée particulière.
Dumouchel affirme avoir entamé le projet d'exposition il y a 2 ans avec comme point d'ancrage l'art africain du comté.
Ce que cette exposition accomplit est de montrer un art et un artiste qui nous enseigne comment nous présenter sous notre meilleur jour. Chacun de ces objets le fait. Chaque héros est lié à chaque chose de spécifique, à ce que je peux identifier comme principe et leadership héroïque. Empathie, dignité, justice et fierté.
Michael, lui, est spécialiste des technologies au Musée Smithsonian des Arts Africains de Washington.
Je peux entrer dans cette galerie avec mon téléphone, m'approcher des objets et lire les étiquettes.
et je peux tenir mon téléphone au-dessus et vous y verrez automatiquement une fiche et je l'actionne. J'ai une vidéo avec sous-titrage, si bien que vous n'avez pas besoin de casque d'écoute si vous ne le voulez pas.
Depuis le 16 novembre, le Musée Smithsonian des Arts Africains de Washington expose une cinquantaine d'œuvres d'art réalisées par une quarantaine d'artistes.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VO Afrique. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno. À la console, Nick Ivanov. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com, bien sûr, sans oublier notre page Facebook. Restez avec nous tout de suite, un nouveau point sur l'information, suivi d'À votre avis, notre émission interactive. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
VOA Afrique, les infos.